Alors, je vous propose de faire un petit tour déjà de table pour savoir un peu qui est simplement votre mot et puis votre blog.
L'Elfe, du blog Imagine Elfe.
DEW, du blog See You Beyond Heaven.
Laure, du blog Délève Sortie du Miroir.
Et Tantarus, du blog Tantarus.
D'accord. Le monsieur qui n'est pas un blogueur officiel. Bon, on fait juste le début. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un blog au tout début? Qui veut commencer à répondre? Allez, Laure, je t'en passe.
J'ai ma meilleure amie qui avait un blog littéraire. Mon copain Nicolas aussi avait un blog mais plus informatique. C'était il y a 3 ans et demi, 4 ans. Et je vais tous mon comment bloguer. Et moi je me suis dit, mais pourquoi pas moi, ça a l'air trop bien le blogging. Voilà, du coup j'ai cherché sur quoi faire. J'aime beaucoup tout ce qui est livres d'illustration, beaux livres. Donc j'ai déjà commencé en faisant le blog de l'autre miroir. Sur les belles images, illustrateurs, etc. Et ensuite, vu que je suis une grande lectrice de fantasy et de littérature jeunesse, ça continue d'être dessus en fait.
Oui, c'est pareil pour les autres, c'est de voir les autres faire, vous avez.
Ouais, c'est pareil. Au départ, j'ai commencé mon blog il y a plus de 5 ans et c'était pas du tout un blog littéraire, c'était juste un blog du journal intime. Après, c'était vraiment le prolongement, après c'était un journal intime, après c'était devenu sur le blog. C'était vraiment le prolongement. Et c'est ça qui va. Je parlais déjà un petit peu de lecture, mais vraiment pas de ce format-là. Même si je considère pas mon blog de ce format que la plupart des autres. Et c'est comme ça, petit à petit, que c'est devenu un blog littéraire. Et finalement, j'ai un parcours assez typique.
Même question.
Alors moi, j'avais déjà un autre blog l'année dernière que je consacrais en fait à mon voyage en Angleterre. Et puis je suis tombée sur d'autres blogs, sur des blogs littéraires. Et je me suis dit, un peu comme Laure et comme les autres, pourquoi pas moi? Et j'ai commencé un deuxième blog justement, See You Beyond Heaven, qui raconte, chronique plus que critiquer les livres que j'ai lus. Voilà, tout simplement.
Alors moi je connaissais pas du tout les blogs littéraires à la base. J'ai fait Imagine Elfe parce que je voulais continuer à chroniquer, parce que j'étais déjà chroniqueuse BD sur internet. Et je voulais élargir à autre chose et avoir un projet qui était vraiment personnel. Le créer de toutes pièces, le voir évoluer et aussi entretenir ma capacité d'analyse, de réflexion, parce que j'étais au chômage quand j'ai commencé. Et du coup ça permettait d'avoir quelque chose de régulier au jour le jour et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai découvert après les blogs littéraires, et du coup après on s'inspire, on devient une communauté. Et au départ voilà, c'était comme ça.
Par hasard. Moi je suis tombée dans les blogs quand j'étais toute jeune, en 2001. J'ai blogué d'abord un journal intime aussi, et puis en même temps je suis sur un forum, et sur ce forum ça s'est dégradé au niveau ambiance. Donc on a tous commencé à ouvrir des blogs littéraires. Et j'ai ouvert mon premier blog littéraire à ce moment-là. Et à un moment donné, j'ai bifurqué vers la SF parce que je me suis rendu compte que je ne lisais pratiquement plus que ça. Et autour de moi, j'avais personne qui lisait de la SF. Et donc j'ai ouvert un blog spécialisé SF pour trouver des gens qui faisaient de la SF, de fantasy, de fantasy. Parce que même dans mon environnement, à part mon compagnon, qui est un grand fan et qui est un grand lecteur, il n'y avait personne avec qui en parler tout simplement, avec qui échanger. Et là, avec les blogs, c'est cool parce qu'on peut discuter de bouquins qu'on lit et on a l'impression que personne ne lit, sauf nous.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est un peu important. Alors, j'ai une question. Pourquoi ne pas avoir été sur un site internet avec d'autres gens, hein, pas forcément avec QSF, mais il y a d'autres sites internet qui font ça. Qu'est-ce qui vous fait continuer? Est-ce que c'est le plaisir de partager quelque chose? Et pourquoi se centrer sur un seul sujet? Vous parliez de journal intime, mais après tout, ça aurait pu être sur le cinéma ou sur autre chose, ou sur l'ensemble des choses. Pourquoi avoir accès à un moment vos blogs sur les littératures imaginaires, ou bien sur un seul sujet? Ça fait 3 questions en même. Qui veut répondre?
Je continue à diversifier, moi. C'est pas devenu un blog littéraire. Moi, l'ambiance, ça continue à faire sur les sujets. Je parle des concerts que je vais voir, des films que je vais voir. C'est pas vraiment un blog littéraire.
Pourquoi un blog plutôt qu'un site?
Alors, je fais les deux.
Alors, quelle est la différence?
Alors, la différence, c'est le contenu. qui va venir des lecteurs sur son blog, en fait, on discute beaucoup plus avec beaucoup plus de gens sur une communauté comme un forum. Moi aussi, ce qui fait ça. Après, discuter sur un forum, moi aussi, c'est pas un contact aussi en commun. C'est pas aussi personnel. On peut pas vraiment expliquer tout ce qu'on aime dans le bouquin. Vraiment, c'est pas pareil. Et continuer le blog, parce qu'on pourrait se dire, je pourrais très bien continuer des forums et arrêter là, je pourrais tout d'accord là-dessus. C'est surtout pour... on prend des notes en même temps qu'on lit, et on a envie de garder un souvenir de ça, d'essayer de revenir sur le bouquin, et ce qu'on en a pensé, essayer d'analyser ça, et de garder une trace de ça. Et ça, c'est... il n'y a pas d'autre moyen, finalement.
Les sites et les blogs, c'est complémentaire. Le blog, ça va être l'espace personnel, on va structurer notre pensée, on va faire un dialogue avec nous-mêmes, avec le livre qu'on vient de lire, vraiment quelque chose de très intime. Et sur les forums, les sites, on va venir discuter avec d'autres, échanger des points de vue. Ça va être des échanges beaucoup plus spontanés, moins structurés, beaucoup plus émotionnels, en fait.
C'est plus général aussi.
Et du coup, et par contre, les spécialisations, alors personnellement, c'était une seconde source par rapport à mes lectures, mais je ne suis pas spécialisée que imaginaire, mais aussi en bande dessinée, qui sont mes deux lectures principales.
La grosse différence entre un blog et un forum et les démarches, c'est qu'en fait, un forum, c'est on est sur l'interaction avec d'autres, et dans un blog, on parle essentiellement de soi. On parle de soi au travers de ce qu'on aime, de notre rapport à la lecture, de notre rapport avec des romans, des auteurs, des expériences qu'on vit, comme quand on fait un festival, des choses comme ça. Donc on parle essentiellement de soi. Sur un forum, on va peut-être être plus à l'écoute des autres. C'est assez paradoxal. Moi, je peux dire beaucoup plus de choses sur un blog parce que c'est plus moi et je suis chez moi. Et les gens viennent chez moi. C'est un forum, je vais chez quelqu'un.
Pour reprendre sur la spécialisation, voilà, chez nous, on est spécialisé tous plus ou moins en imaginaire, en bande dessinée ou autre, en jeunesse. Mais aussi sur les forums, on va trouver d'autres profils. Et c'est ça qui va être intéressant aussi. De voir des gens lire de la littérature très générale, ou du thriller, ou de la beat-lit, et de pouvoir échanger avec des profils très différents, c'est vraiment très enrichissant, et on sort de nos carcans, ça donne aussi une autre image de nos propres lectures. C'est enrichissant de se confronter à l'autre.
Oui, il y a aussi le plaisir du partage, quand ensuite il y a des gens qui viennent nous voir en disant « J'ai acheté le livre parce que tu l'as présenté, parce que j'aimais la façon que tu l'as présenté, et j'ai adoré, donc grâce à toi, il y a aussi un grand plaisir personnel de ce côté-là. »
Je voulais juste rajouter que oui, c'est le blog, c'est surtout l'échange, oui, de ce que les autres ont dit, et que ça permet aux autres de... Ça donne envie aux autres justement d'acheter des livres et de partager ce plaisir de lecture qu'on a reçu.
Aussi, oui. Les commentaires et d'autres blogs. Ça marche aussi dans l'autre sens. Nous, quand on a les commentaires et d'autres blogs, moi aussi on enrichit notre lecture.
C'est ça qui vous motive à continuer aujourd'hui le blog, hein. C'est cette espèce de partage. Vous continueriez si une personne, pas disait, mais commentait tous les mois.
C'est très égoïste sur ma façon de bloguer, je blogue pour moi. Je blogue aussi pour garder une trace, c'est ce que je disais tout à l'heure sur Facebook. On garde une trace de rencontres avec des bouquins, d'événements passés. C'est aussi une mémoire, c'est aussi une façon de garder une mémoire des événements. Donc je continuerai à bloguer même si j'avais plus de commentaires. Et c'est vrai qu'avoir des commentaires, c'est aussi dire tiens, il y a des gens que ça intéresse, il y a des gens qui sont touchés par ce qu'on écrit ou par ce qu'on vit, et il y a des gens qui ont aussi vécu la même chose. Donc ça, c'est plus enrichissant. C'est égoïste à la base comme démarche, mais au final, ça se retrouve sur du partage. Donc c'est vrai que c'est... Et ça pousse à continuer. En fait, ça ne pousse pas à continuer, ça pousse à améliorer ce qu'on fait, à essayer de faire de plus en plus de beaux billets, de donner un maximum de choses, un maximum d'informations, et donner de plus en plus de plaisir aux visiteurs.
Justement, avoir un blog pour continuer les choses que tu lis, ça impose une certaine rigueur de travail en fait. On se force, on se pousse à aller au-delà, d'aller toujours de l'avant, de faire toujours des meilleures choses en fait. Forcément, on n'a que envie de continuer, quoi. On ne peut pas s'arrêter comme ça.
Et alors, sur ce que vous faites sur vos billets, etc. tout à l'heure, tu parles, c'est toi qui parlais des chroniques au lieu de critiques.
Oui, alors,
ouais, est-ce que vous pouvez me définir pour vous hein, la différence entre les deux termes?
Alors pour moi, la critique littéraire, ça rapporte à tout ce qui est dans le milieu parisien, bourgeois. Ça a un côté très négatif et je ne veux surtout pas être liée à ça. Quoi. Moi, je fais des billets pour dire si j'aime bien, si j'aime pas. On a aucunement le droit de dire si un livre est nul ou pas. Quoi. Il plaît à la personne et on ne peut pas dire s'il est bon ou s'il est mauvais. Quoi. C'est, il nous plaît ou il ne nous plaît pas. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, mais c'est ça. Quoi. On n'est pas des critiques, on est pas là pour dire le livre là, il est nul. Enfin, voilà, en fait.
Je suis un peu plus tempérée dans ma vision. Pour moi, la critique, c'est quelque chose qui va analyser objectivement. Il va dire là, ça pêche. Là, c'est un bon retournement de situation. Ah, l'auteur est inventif. Quelque chose d'objectif. La chronique, elle laisse une énorme part au ressenti. Et c'est, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, c'est vraiment très important que mes chroniques reflètent les deux. Parce que moi, j'aime analyser les œuvres, mais je ne suis absolument pas de formation littéraire. Je ne prétends pas avoir le savoir. Donc, j'analyse objectivement selon mon point de vue et j'analyse les émotions que j'ai ressenties aussi. Et c'est pour ça que les chroniques, c'est vraiment...
C'est ce que tu dis.
Ouais,
T'analyses objectivement selon ton point de vue.
Voilà. Voilà. C'est une analyse intellectuelle, on va dire, intellectualisée, oui. Mais qui est avec mes propres connaissances. Ta c'est vision, pas des connaissances ouais. Académiques que j'aurais acquises. Voilà. C'est pour ça.
Avec ta grille de lecture. Alors oui, après ça dépend des blogs parce que je sais qu'il y en a qui sont vraiment très poussés et d'autres qui sont plus empilés, qui sont pas enfin, surtout moi, j'appelle vraiment ça, c'est pas ça des critiques, c'est plutôt des chroniques parce que je donne mon avis de lecture. Et pour moi c'est ça, c'est pas. C'est vrai que le mot critique moi aussi je pense
ça rapporte.
C'est forcément péjoratif, on sent qu'on juge. Et moi c'est pas ce que je veux faire.
Voilà,
je veux pas juger l'œuvre, je me sens pas déjà légitime pour ça, puis c'est pas ce que je veux faire. Par contre je donne mon avis personnel et après les gens font ce qu'ils veulent. Ça peut très bien, il y a des gens qui peuvent l'avoir aimé alors que moi j'ai pas aimé, ou avoir aimé des aspects que moi j'ai pas aimé, et au contraire. Après, il y a aussi des blogs qui arrivent à faire les deux, qui arrivent à analyser, moi je me sens pas capable. Mais après, voilà, c'est ça qui est bien aussi de pouvoir échanger avec plein d'autres blogs, c'est de pouvoir avoir d'autres visions. Et j'ai déjà remarqué aussi qu'on est plusieurs à avoir des blogs pas forcément très analytiques comme ça. Et c'est bien d'avoir une diversité comme ça de blogs.
Est-ce que vous sentez une responsabilité par rapport aux livres et aux auteurs?
Responsabilité, non, parce que au final, c'est toujours le ressenti. C'est toujours la façon dont on a vécu une lecture. On ne va pas juger l'auteur, on ne va pas juger l'œuvre. Voilà, c'est un rapport tout à fait personnel. Après, on accepte, si l'auteur nous dit « vous n'avez pas compris ça parce que je le voulais comme ça », on accepte, mais il ne peut pas remettre en cause ce qu'on a lu, nous. Voilà. Donc, on n'a pas de responsabilité dans ce sens-là.
Ouais, on n'a pas de responsabilité à proprement parler, par contre, on a une responsabilité dans la forme. C'est-à-dire dans la forme, dans la façon dont on rédige nos chroniques ou nos critiques, on appelle ça comme on veut, on a une responsabilité, c'est-à-dire qu'en face de nous, de l'autre côté, il y a quand même un auteur, et c'est une qualité, aussi c'est un être humain, et on doit faire attention à la façon dont on dit les choses. Un bouquin peut ne pas nous avoir plu, mais on n'a aucune raison et on n'a aucune excuse pour le descendre en flamme. Comme ça a pu arriver sur certains blogs, on a pu voir des chroniques ou des critiques très très virulentes ou très violentes. Et ça, pour moi, c'est on a une responsabilité, c'est de ne pas, je ne vais pas dire heurter la sensibilité, parce qu'on va finir, si on n'a pas aimé, on va heurter forcément l'auteur. Mais en tout cas, dans la forme, on doit être respectueux. Ouais. Il y a un auteur qui a quand même travaillé, qui a pris un bouquin, et même si on n'a pas aimé, on doit quand même respecter le travail de l'auteur.
Alors justement, simplement, là vous êtes aux Imaginales, les blogs sont plus ou moins de plus en plus importants pour les maisons d'édition. Quels sont vos rapports avec les auteurs et plus généralement les éditeurs, les traducteurs, etc. Comment ça se passe?
C'est comme si je les ai découverts, je les ai approchés. Ça m'a servi un peu de pass VIP, le blog en fait. Je suis là à côté du miroir, bonjour, et du coup, ah oui, bonjour, je connais. C'est vrai que du coup, ça donne un rapport totalement différent que quand tu approches en simple lecteur. Et sinon, bah, par rapport aux étagères, c'est vrai que du coup, ça, ça amène une crédibilité. On est approché de plus en plus facilement, je trouve, les attachés presse qui nous prennent de plus en plus sérieusement aussi. Ils hésitent plus du tout à nous proposer des services presse ou nous demander des avis sur des livres ou quoi que ce soit.
Pardon.
Ce que
je veux dire, c'est que ça me fiche la trouille. Parce que quand je viens aux Imaginales et que je rencontre un auteur, je viens faire dédicacer un bouquin, il me dit « Ah, j'ai lu votre chronique !» Et là, ça me fiche la trouille de me dire... En plus, je lis beaucoup d'auteurs français, imaginaire et beaucoup d'auteurs qui ont publié récemment des publications récentes. Donc je me retrouve avec des gens, je sais qu'ils me lisent. Donc au bout d'un moment, je suis timide à la base, c'est pour ça que je blogue aussi.
Qu'est-ce que j'ai dit
déjà? Voilà, qu'est-ce que j'ai dit de cette chronique? Qu'est-ce que je dis comme bêtise?
Qu'est-ce que j'aurais pu dire?
Voilà. Donc ça biaise aussi un peu le rapport. Et après, je suis suffisamment transparente pour dire bonjour, je suis Lisbé du RSF Blog, mon vrai prénom c'est Garine. Voilà. Et je ne peux pas arriver sur un festival, voir un auteur, me faire dédicacer le bouquin et ne pas lui dire que j'en ai quand même parlé à un moment donné, tout simplement pour ne pas fausser le rapport avec lui.
Bah, pour moi, je suis encore une petite blogueuse, on va dire, donc j'ai pas encore la chance d'avoir trop de contacts parmi les auteurs. Donc je passe encore assez inaperçue dans les salons littéraires. Mais pouvoir discuter avec les auteurs, c'est quand même assez génial. Parler du livre, de l'écriture, de tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur du livre. Je vois tout à l'heure avec Laure, on a eu la chance d'avoir une sorte d'entretien privé avec Nadia Coste. C'était un réel bonheur de parler de son livre. C'est vraiment génial.
Oui, c'est exactement ça. En fait, quand le travail de chronique, pour moi, il n'est jamais fini. On peut toujours remettre en cause son avis, retrouver des éléments. Et du coup, en rencontrant les auteurs, on peut poser la question qui nous trotte en tête depuis un moment, lui demander ce qu'il a voulu dire et lui dire comment nous, on l'a vécu. Et du coup, on a une espèce de deuxième lecture qui est la sienne et de troisième lecture qui est celle qu'on fait ensemble. Au travers de la discussion, c'est absolument génial. Alors effectivement, après... des fois on arrive en tant que lecteur, on se fait super bien accueillir et puis je suis blogueur, enfin je chronique, là des fois il y a un petit temps d'hésitation, comment je dois le prendre Bon voilà, ça m'est arrivé en BD quand j'ai dit que je chroniquais pour un site, mais pour un site en particulier les blogueurs on est des gens, voilà, les sites c'est autre chose, mais en BD ça a figé une relation une fois alors que ça change rien en fait à ce que je suis quoi. Voilà, mais la plupart du temps c'est vraiment très enrichissant et les auteurs sont vraiment très ouverts donc c'est un plaisir.
Et alors justement sur cette la question d'après, c'est la distance. Est-ce que sur un auteur que vous avez déjà rencontré, est-ce que vous avez gardé la même distance par rapport à ses livres suivants? Vous voyez, un auteur sympa, vous avez bien papoté avec, il sort un livre d'après et vous trouvez nul. Comment vous faites?
Alors c'est un auteur que j'ai pas rencontré, mais c'est un livre qui m'avait envoyé en service presse. Et le livre, je l'avais... carrément pas aimé. J'ai eu la chance de discuter avec cet auteur après, qui m'a expliqué comment ça s'est passé pour son livre et tout. On a discuté, mais j'ai toujours pas aimé son livre. Mais l'auteur est très sympathique, on discute bien ensemble et voilà quoi. Enfin, après, je pense qu'il y a le travail de chroniqueur et il y a la personne. Quoi. Il faut arriver à séparer les deux. L'auteur et la personne, le chroniqueur et la personne.
Et par rapport aux éditeurs, est-ce que vous êtes de plus en plus sollicité? Est-ce que ça ne vous met pas une certaine pression derrière?
Alors oui, on est de plus en plus sollicité. Alors avant, on faisait des démarches quand même. Enfin, on en fait toujours, on demandait des services de presse normalement. Moi, c'est depuis mars, j'ai remarqué beaucoup d'éditeurs, et surtout dans la littérature jeunesse, qui me contactent. Et des auteurs auto-édités ou en toute petite structure d'édition, qui font eux-mêmes leurs démarches. Et on arrive à en être débordé. Et pour être honnête avec soi-même, on ne fait pas ça juste pour avoir des livres gratuits, on fait ça parce qu'on est là, on reçoit un service presse, on a une responsabilité. Donc, il faut qu'on ait le temps de le lire, il faut qu'on ait le temps de le chroniquer comme il faut. Donc, ça m'est arrivé personnellement de refuser. Soit parce que le scénario ne m'intéressait pas, donc ça ne valait pas le coup d'éventuellement faire une chronique négative et de pas prendre plaisir à une lecture juste pour avoir ce livre. Quoi. Donc à un moment, y a certains qui disent oui, certains ont dit non, mais oui, on est maintenant plus sollicité.
Oui, et il y a aussi le service presse sauvage, donc des maisons d'édition qui nous envoient sans nous solliciter des livres et dont on ne sait même pas où ils ont eu nos adresses, donc on se pose des questions des fois. Et ça peut arriver, hein, ça m'est arrivé. Et donc là, on se dit, ok, ils peuvent nous envoyer des livres intéressants, mais nous, est-ce que ça nous intéresse? Enfin, est-ce que c'est dans la ligne éditoriale de notre blog, on va dire ça comme ça? Et est-ce que ça m'intéresse vraiment le livre? Après, est-ce que je suis forcée de lire puisqu'ils m'ont envoyé le livre? Donc il y a beaucoup de questions qui... Après, il faut qu'il y ait un respect mutuel entre la maison d'édition et le blogueur. Donc il faut voir comment ça se passe. Quoi. Il y a toutes les différentes relations. Alors, tu voulais dire quelque chose?
Non. Oui, voilà. Oui, c'est par rapport. Oui, moi personnellement, je vais prendre mon exemple, c'est plus simple. Je vais prendre Paris. Donc oui, vous connaissez, je suis de plus en plus sollicitée régulièrement. D'ailleurs, c'est impressionnant le boom maintenant. Des choix, de dire non, parce qu'après j'ai l'impression de plus lire par plaisir en fait, d'être obligée de lire des livres que je n'aurais jamais lu sinon, et qui au final ne me plaisent pas forcément, et qu'au final je ne fais pas forcément des chroniques non plus très valorisantes, et au final les éditions n'est pas forcément contente.
Et quand tu reçois les livres sans qu'on t'ait demandé?
Ouais. Et quand je reçois les livres dans les premiers, je suis sûre par le livre, mais alors il est en bon appétit, non?
C'est ça que j'appelle le service presse sauvage.
Moi j'ai une grande chance, c'est que j'ai les moyens d'acheter des livres, donc j'achète. Mais nous aussi fait que... Oui, alors, je crois que j'ai dû solliciter 3 livres en service presse. Donc toute la carrière du RSF Blog, ça fait quand même 3 ans et demi. Et j'ai refusé, je refuse les livres qui, un, ne me plaisent pas, ne vont pas me plaire, parce que je me connais, ça ne rien. Je vais me forcer à lire un bouquin qui ne va pas me plaire. Et je refuse de plus en plus. J'ai demandé à sortir des listes de diffusion de certains éditeurs, parce que de toute façon, c'est pas la peine. J'ai tellement de livres à lire que j'ai envie de lire ce que j'ai. Enfin, j'ai envie de me laisser porter par l'instant présent. À un moment, j'ai envie de lire un livre, je prends le livre, je lis le livre. Donc j'accepte encore des services presse. Il y a des livres qui me font envie, donc je dis, ah ben tiens, c'est l'occasion. Mais sinon, j'essaie de ne plus en prendre. Et puis, je vais rester libre.
Lisbeth soulève un point essentiel, c'est on est des blogueurs, on n'est pas des professionnels. Si on lit, c'est parce qu'on est passionné, c'est par plaisir. Donc, on achète tous des livres de façon un peu démesurée. On va tous repartir avec nos 3 sacs de bouquins dédicacés après avoir fait nos groupies auprès de nos auteurs préférés. On reste comme ça ou pas? On reste avant tout ça, et du coup, le service presse, voilà, ça va pas être comme un professionnel où on accepte de chroniquer certains titres parce qu'il faut les chroniquer. On accepte de chroniquer ce qu'on aurait. Est-ce qu'on a envie, est-ce qu'il nous tente, et si jamais il n'y a rien qui nous tente, et on va se contenter de ce qu'on a ou de ce qu'on veut acheter. Après, c'est vrai, comme dit Lisbeth, il y a le côté moyen financier qui rentre en jeu pour certains blogueurs. On est beaucoup d'étudiants, beaucoup de chômeurs, donc là, oui, on va peut-être plus facilement solliciter des services presse ou les accepter, mais on reste avant tout des lecteurs par envie, par passion et des acheteurs.
Alors, la question un peu d'après, c'est par rapport à vos débuts, comment ça a évolué et comment est-ce que vous regardez aujourd'hui votre blog par rapport à votre... dans vos premières intentions. Ah, c'est une psychanalyse. Hein.
Moi, ça m'arrive beaucoup quand je reprends mes premières chroniques. oui, parce que c'est 10 lignes de long, quoi. Je savais absolument pas quoi dire. C'est oui, j'ai aimé ce livre parce que, et voilà, quoi. Alors que maintenant, j'arrive à faire des chroniques en 500, 600 mots, c'est élaboré, c'est, ça n'a rien à voir, quoi. C'est le jour et la nuit, quoi.
Moi, c'est pas comme Laure. Moi, 600 mots, c'était mes premières chroniques. J'étais déjà chroniqueuse, donc j'avais un petit peu de bouteille. Et puis, au fur et à mesure que je prends plaisir à analyser des livres, des fois, je n'arrive pas à m'arrêter. Donc, j'ai fait des chroniques assez longues. J'espère que c'est pas trop pénalisant. Et du coup, le blog n'a pas énormément évolué parce que j'ai commencé mon blog, je naviguais déjà dans la sphère SF. Je connaissais déjà des gens qui sortaient des livres que j'achetais parce que je les aimais bien. Et donc, je chroniquais déjà les mêmes livres que je vais chroniquer aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont juste rajoutés des chroniques de services de presse ou de la jeunesse que je lisais beaucoup moins avant et à laquelle je me suis intéressée par contre. Donc voilà, moi, ça n'a pas trop bougé.
Ouais, moi, c'est pareil, c'est la même chose que Laure. Mes premières chroniques sont très courtes. Et plus ça avance, plus j'entre pas forcément dans les détails parce que je ne veux pas dévoiler le livre et faire perdre le plaisir de la découverte à ceux qui vont lire la chronique. Mais je vais plus loin dans l'analyse, dans ce que j'ai ressenti et dans aussi peut-être les qualités plus formelles du livre. Ça veut dire peut-être analyser un peu plus la forme, le fond, la thématique et aller plus loin dans la chronique en elle-même. Et ensuite, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que plus ça avance, plus je blogue. C'est-à-dire que je fais des billets tous les jours, alors qu'avant c'était pas forcément tous les jours. Je donne plus d'informations, j'ai plus d'idées, voilà. Donc c'est une machine qui s'emballe un petit peu.
Je reviens sur le fait de monter les chroniques parce que tu analyses de plus en plus. C'est ça que je parlais pour l'intellectualisation et le côté à la fois analyse des chroniques et le côté ressenti. C'est effectivement, on analyse avec notre bagage et au fur et à mesure qu'on chronique, qu'on rencontre des gens, qu'on discute, on apprend et du coup, bah, on développe notre pensée, on structure mieux nos chroniques et on écrit un peu plus.
Il y a aussi un certain mécanisme qui s'est mis en place par rapport au début. Au début, je trouve que je galérais pas mal, comme avec mes 10 lignes, j'avais du mal à les sortir. Donc maintenant, c'est vrai qu'il y a une certaine facilité. C'est en écrivant qu'on apprend à écrire, c'est-à-dire en utilisant les écrits.
Ça, je peux confirmer, je suis entre les deux. C'est tout ce que j'ai à dire. Je peux confirmer, je suis entre les deux. Je suis en train de prendre le chemin petit à petit et j'ai ma
prise. C'est tout ce que j'ai à dire. Pareil, moi, pour l'instant, ça bouge pas trop encore. Je commence à aller plus en profondeur dans les thématiques, l'analyse thématique du livre, mais sinon, côté formel, non, ça n'a pas trop bougé.
Et juste, parce que je me rappelle qu'à un moment, tu as mis 4 jours ton blog en semaine.
Oui, ça m'arrive.
Non, mais en fait, la question, c'est est-ce que bloguer, c'est toujours du bonheur ou parfois vous en avez ras-le-bol, vous avez juste envie de faire autre chose ou,
Alors pour moi, en ce moment, bloguer, j'en ai ras-le-bol, je le dis, parce qu'il y a eu dernièrement sur la blogosphère littéraire, il y a eu quelques clashs, il y a eu des clashs sur certains thèmes, ça m'a assez énervée, et l'engouement pour les services presse par certaines personnes, ça m'a... Je me suis remise en question, j'ai arrêté, on va dire, mon blog un petit peu. Ça fait un moment que je chronique une fois par mois, on va dire. Non, ça fait 2 mois que j'ai presque pas posté, parce que je me demande finalement à quoi ça sert. Enfin, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va tout seul dans cette connectivité? Comment on en sort? Pour l'instant, je me pose des questions. Je ne vais pas arrêter mon blog parce que j'adore mon blog, j'adore chroniquer les livres que je lis. Mais en ce moment, je sature.
Alors oui, des fois, on en a ras-le-bol. Personnellement, c'est un rythme que je me suis imposé à cause du chômage, encore une fois, pour avoir quelque chose à faire tous les jours. Donc, à un moment, je postais plus d'un billet par jour. Donc, j'y passais des heures. Et à un moment, je l'ai remis les pieds sur terre. Il y a une vie aussi, il y a d'autres choses à faire. Et du coup, là, j'ai ralenti le rythme. Et donc, je reviens à ce que dit DEW. C'est qu'on a besoin de temps en temps de se remettre en question, de se rappeler pourquoi on le fait, parce que des fois on s'embarque dans un mécanisme, on est pris dans la fièvre collective, et puis au bout d'un moment on en fatigue, on est humain, et du coup on se remet un peu en question.
Il y a surtout des moments où on a presque l'impression que ça devient une obligation de chroniquer, parce que quand on prend des relais par tard, on a lu pas mal de bouquins et qu'on n'a pas eu le temps de les chroniquer, et qu'on a encore trouvé un autre, et qu'on n'a plus encore trop à lire. Et il y a un moment vraiment dans cette fuite, je me disais, mais pourquoi je m'oblige à faire ça, c'est pourquoi je fais ça déjà. Et voilà, puis aussi, quand on manque de temps, parce que quand on travaille, quand on a d'autres occupations, moi je sais que j'ai de plus en plus de mal à trouver le temps, surtout que là, cette année, j'ai fait quasiment tous les salons que je peux, donc ça va. Et du coup, j'ai pu mes week-ends, j'ai le temps de me lasser. Il faut faire un choix, il y a des fois où on ne peut pas tout faire non plus, et c'est surtout ça, il y a des moments où on se dit, mais pourquoi je fais ça déjà, et puis finalement, petit à petit, ça revient. Et il y a vraiment des moments où on se dit, mais pourquoi je me suis embarquée.
En fait, on commence à bloguer parce qu'on veut échanger, parce qu'on veut écrire, parce qu'on aime nos lectures. Et à un moment, on se retrouve à bloguer pour bloguer. Et là, on nous a travaillé.
Alors moi, à chaque fois que j'ai mis mon blog en sommeil, ça a été un déchirement. Parce que je suis tellement mordue au blog que je ne me pose même pas la question de pourquoi je le fais. C'est devenu un automatisme, c'est une drogue, il faut que je blogue. Donc je peux passer des heures, par exemple un dimanche, où j'aurais rien de prévu, à faire des billets, à programmer le blog. Et puis par moment, je vais avoir moins de temps parce que j'ai une vie et que je ne veux pas non plus sacrifier ma vie au blog. Donc je vais... Mais ça va être un déchirement, ça va être une frustration de dire aujourd'hui, je n'ai pas publié de billet parce que je n'ai pas eu le temps de le préparer parce que j'ai dit ça. Et c'est vraiment difficile. Et quand j'ai mis mon blog en sommeil, c'est soit que j'ai vraiment besoin de vacances et donc de dormir parce que je vais rogner sur mon temps de sommeil pour bloguer, ou soit que je ne vais pas bien. J'ai eu une période difficile au boulot et dans cette période-là, je n'étais pas du tout. J'avais pas la disponibilité intellectuelle pour lire et chroniquer correctement, et donc j'ai dû ralentir le rythme. Et je me souviens, pendant un mois, j'ai pas fait une seule chronique de livre. Et je regarde mon blog maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un gros trou dedans. Alors voilà, il y a un gros trou, c'est horrible.
C'est rigolo parce que là, la façon dont on en parle, on a l'impression d'être des professionnels et de travailler et de ne pas faire ça par plaisir, mais comme
un travail en fait.
C'est ça, c'est ça, quand je disais, on s'en obligé, c'est ça en fait. Oui. Il y a toujours le petit côté, on veut revenir sur ce bouquin pour regarder un souvenir, oui. Et moi, c'est ça qui me motive à chaque fois pour venir dedans. Oui. Mais finalement, c'est pour ça qu'on s'est embarqué là-dedans, c'est avant tout pour nous. Donc,
voilà. Ben, en fait, un blog, c'est vrai que c'est du travail parce que ça demande énormément de temps, mais c'est faire sérieusement, sans se prendre au sérieux, quelque chose qui n'est pas tout à fait sérieux. Oui. Et à partir du moment où on garde ça en tête, ben on s'éclate et on continue à le faire. Et surtout, ça demande du travail, mais ça ne demande pas un effort. Ça, c'est pas une souffrance, c'est pas difficile, c'est un plaisir, mais c'est vrai que ça demande un petit peu à réfléchir et puis à se mettre derrière son écran et puis à prendre quelque chose d'intéressant.
La couleur, ça paraît dans la marque.
Elle répond pas beaucoup là.
Mais c'est bon, tout a été dit. Donc.
Est-ce que c'est un effort pour toi de t'occuper de ton blog?
En fait, ça commence. J'y arrête du moment où j'ai plus de plaisir à faire. En fait. Il y a des fois où je sature, où j'arrive le soir, je suis crevée, j'ai autre chose à faire que prendre l'ordi, ou ouvrir ma page, et dire j'ai pas envie, les mots ne viennent pas. Donc quand c'est comme ça, je cherche pas quoi, mais je le ferai plus tard, je le ferai dans une semaine, deux semaines, c'est quand ça reviendra quoi. Je trouve que le faire pour se forcer, c'est gâcher tout le plaisir et on arrive à se dégoûter et c'est pas le principe quoi, c'est notre plaisir.
Juste, on va juste parler des lectures pour la dernière question. Votre dernier coup de cœur, rapidement en lecture. C'est une question cache, il va falloir réfléchir. C'est quoi le dernier livre ou la dernière BD que vous avez aimé? Il y a un gros blanc là, vous êtes tout en train de se poser la question.
Alors, le dernier coup de cœur, la dernière lecture que j'ai eue, ça a été un coup de cœur, c'est Promise de Annie Tanguy, que j'ai beaucoup aimé, mais. Comment dire, comment expliquer pourquoi c'était un coup de cœur? J'ai beaucoup aimé le fond dystopique, le background, la description de la société, plus que l'amourette en fait qui était décrite dans le roman, qui pour moi n'a aucun intérêt, on va dire. Voilà. Mais tout le côté, la description de l'univers comme un personnage à part entière, pour moi, ça a été un vrai plaisir. Et sinon, le coup de cœur sur l'année 2011, pour moi, c'est Fédéline de Nadia Coste, j'en démords pas. Ce roman est absolument magnifique. Voilà, voilà.
Non, ton coup de cœur.
J'ai réfléchi encore.
Moi, le dernier coup de cœur, c'est le dernier bouquin qui m'a fait une grosse impression, c'est Dor et Dembrose d'Eric Stein. Par sa construction, voilà, trois tons différents, chaque partie. Donc ça a été vraiment un roman que j'ai apprécié. Et juste avant, celui qui m'a le plus secoué et qui reste pendant longtemps un coup de cœur, c'est Il est parmi nous de Norman Spiderman, qui est excellent du début jusqu'à la fin.
Alors, si maintenant qu'on m'a trouvé. Trop bien.
Alors, moi, mon dernier coup de cœur, c'est Humaine de Montlevin, qui nous amène en fait dans un monde étrange où les êtres qui y habitent, en fait, c'est une sorte de monde parallèle, les êtres qui y habitent ne respirent pas. On peur des humains parce qu'ils pensent qu'ils sont sales, plein de microbes, etc. Et en fait, ils jouent tout ça sur la différence, etc. Et c'est avec une plus magnifique scène, vraiment un livre préféré. Et sinon, mon livre préféré de toute ma vie, c'est lui.
C'est le livre des choses perdues.
C'est comme un livre, il faut le lire. C'est un livre merveilleux.
Si je me souviens bien, le dernier coup de cœur BD, c'est Les Peuples Oubliés, un one-shot de deux jeunes auteurs qui nous emmènent dans une espèce de conte oriental absolument splendide, qui a une ambiance graphique un peu... je ne saurais pas comment dire, ça s'affranchit des codes de la BD, cases, enchaînements, machin, tout ça, pour nous offrir un monde avec des textures vraiment incroyables, et c'est une histoire très simple, un conte très classique, mais avec une identité vraiment très intéressante. Et au niveau non-BD, je ne dis pas livre, parce que ça serait un peu péjoratif pour la BD, ça serait Marche Nocturne de Franck Ferry qui est ressorti au Colorado, parce que les recueils, c'est très délicat comme format, souvent c'est très illégal. Et là, il a réussi à créer tout un univers vraiment incroyable, vraiment superbe, avec vraiment une identité visuelle pour un livre, c'est assez sympathique. Et très rude, mais très beau à la fois, je le conseille vraiment.
J'avoue, j'ai beaucoup de mal à me souvenir de ce que j'ai lu cette année. J'ai que le souvenir des deux dernières chroniques que j'ai faites, ça m'en va. Et donc, je dirais Citeriae de Charlotte Bousquet pour cette ambiance et le coup de cœur de cette année, c'est vaginal. Et donc, j'avoue, je l'ai rencontré à Mons à Être les légendes. Et j'étais en train de lire Citeriae en allant faire des dédicacités. J'avais resté juste au dernier tiers et je m'étais pas du tout attendue à ça. C'est très, très, très construit. C'est très structuré. Elle maîtrise énormément toutes les techniques du théâtre, des coupures de presse. Et je m'attendais pas du tout à ça. Et ça donne une œuvre, mais on est complètement pris dedans. Et c'est une ambiance vraiment de Venise, les glauques, les Cathy, c'est inspiré aussi beaucoup de la mythologie grecque. Et ça, vraiment ça donne une claque. Et moi j'aime bien les moments comme ça qui, voilà, on ne s'attendait pas à ça et d'un coup on a une bonne surprise comme ça, vraiment une qualité incroyable. Et c'est finalement assez rare. Et puis pour deuxième coup de cœur, bah, puisqu'on est là pour faire de la pub, hein, j'en profite moi aussi. Parce que moi je suis une très grande fan de Terry Pratchett. Et donc au dernier, je vais le de nuit et je trouve l'un des meilleurs. Ça clôt la série des Tiffany Patrick. Et c'est vraiment, donc c'est une série qu'il a fait pour les, on va dire jeunesse. Moi je trouve ça plutôt pour ados, vraiment début adulte. Parce que c'est quand même assez profond comme philosophie. Et celui-là est le meilleur, il est peut-être moins drôle, mais il va plus au fond de la chose. Il est moins tarabiscoté aussi, parce que les Tiffany, je ça. Quand j'ai vu que c'était classé en jeunesse en Angleterre, j'ai trouvé ça quand même assez exagéré parce que c'est vraiment très bon, c'est bien comprendre tout. Donc voilà, je vais mettre les deux de tirer pas de chat. Voilà.
Eh ben merci. Ah non, bah, excuse-moi.
Moi, je peux vous donner en exclusivité mon prochain coup de cœur. Je suis à peu près aux trois quarts du livre. C'est Rosé de Feu, de Xavier Moméjean. Et pour savoir pourquoi c'est un coup de cœur, eh ben, il faut le lire.
Oui, j'ai pas encore chroniqué.
Bon, bah, merci beaucoup.